Le carillonneur, troisième partie, chapitre 3. La guerre était déclarée entre Borlut et les magistrats de la ville, qui, la plupart, hommes d'affaires et de spéculation, étaient engagés dans l'entreprise du port de mer. Borlut les avait dénoncés. Il leur fut dès lors un suspect, presque un traître. Encore un peu, on le traitait de mauvais citoyen et d'ennemi public. Les journaux de ses adversaires ne lui ménageaient ni injures ni attaques, à lui et à ses amis. Toutes les petites vexations lâches et occultes commencèrent. La Société des archers de Saint-Sébastien, dont il était chef-homme, touchait annuellement un subside, de quoi acheter quelques pièces d'argenterie pour offrir en prix dans ses concours de tir. L'allocation fut retirée, par vexation vis-à-vis de Borlut, et aussi parce que la gilde paraissait pactiser avec lui, faire opposition au projet. Mais ce fut surtout contre Bartholoméus, le peintre, qu'une campagne s'engagea. On le savait lié intimement avec Borlut. Au surplus, on le soupçonnait l'auteur de la caricature sur Bruges, port de mer, ce dessin satirique où l'on voyait les habitants, avec leur maison sur le dos, courir après la mer. Il venait de terminer enfin ses peintures, la grande fresque qu'on lui avait commandée pour la salle gothique de l'hôtel de ville. L'occasion était propice, peut-être, aux représailles. Le peintre travaillait depuis des années et n'avait jamais voulu montrer à personne, même à Borlut, les quatre panneaux qui constitueraient l'ensemble de l'œuvre. Il les avait exécutés au point de vue du lieu de leur destination, en harmonie avec le style du monument, la couleur des murs et des boiseries, l'inflexion du plafond, le jour sobre qui, à travers les vitraux, règne dans cette salle d'apparat. Il ne fallait donc les voir qu'à leur emplacement définitif. Bartholoméus les installa. Et, malgré ses scrupules ordinaires, son éternel mécontentement de lui-même, il fut satisfait, presque surpris, du recul que ses peintures, enchâssées dans les encadrements, avaient pris tout à coup, quelque chose comme un enfoncement dans le rêve et hors des âges. Borlut les vit, les trouva admirables, s'émotionna, s'enthousiasma. C'était moins de la peinture qu'une apparition, comme si les murs séculaires étaient à jour et qu'on voyait enfin le rêve que les pierres font. En somme, Bartholoméus avait trouvé un nouveau mode de décoration murale où les choses apparaissaient à travers une brume, ainsi qu'elles doivent apparaître à un somnambule, ainsi qu'elles subsistent dans la mémoire. Les proportions humaines cessaient. Tout s'accroissait d'un règne. Telle pierre de vieux quai s'étiolait comme un parterre. Des cloches cheminaient comme de petites vieilles. Les personnages n'avaient plus que des gestes d'éternité, la beauté des gestes inutiles. Borlut, en sa qualité d'architecte de la ville, avait présidé à leur installation. Il convoqua ensuite la commission des beaux-arts, qui devait en prendre livraison. Il y figurait lui-même avec un échevin, quelques conseillers. Ce fut chez ceux-ci un désappointement, un immense ahurissement. Ils demandèrent des explications à Bartholoméus qui se trouvait là. « Quel est le sujet de vos peintures ?» interrogea l'échevin. Le peintre les mena au centre de la salle d'où on jouissait du meilleur éclairage. Et, après une hésitation, s'emballant, comme s'il oubliait tout à coup qu'ils étaient là, il expliqua. « Voilà, c'est un ensemble, une symphonie sur la ville grise qu'est Bruges, une symphonie en noir et blanc par conséquent. Donc des cygnes et des béguines d'une part, des cloches et des mantes de l'autre. Et tout cela raccordé par le paysage circulaire qui continue et qui est l'orchestration. » Les membres de la commission se regardèrent, décontenancés, sévères, soupçonnant quelque ironie de la part du peintre, qui ne daignait rien leur expliquer et se réfugiait dans des formules hermétiques les nuées de son orgueil. D'ailleurs, ils jugèrent vite que la peinture était bien conforme à ce charabia. Allaient-ils en laidir et ridiculiser la salle gothique avec ses tableaux incompréhensibles? Il fallait voir. L'œuvre pourrait être refusée. Elle n'était pas payée. Les examinateurs circulèrent, allèrent se poster de l'autre côté, devant le panneau où figuraient des béguines. Un conseiller ricana. « Mais le béguinage n'est pas ainsi du tout !» Bartholoméus jugea inutile de discuter. Un autre observa encore. « Il n'y a pas de perspective. » « Chez Memling non plus !» riposta Borlut, qui commençait à ne plus se contenir, s'extasier précisément à la même minute sur ce joli fond où Bartholoméus avait enfoncé des chemins, aux indolences de fumée qui s'en vont jusqu'au ciel, comme dans les primitifs flamands. À vrai dire, la commission n'y pouvait rien comprendre. Mais, au surplus, elle était hostile, excitée par l'échevin, le même qui présida naguère le meeting, et, à cause de la caricature imputée au peintre, cherchait à le frapper. Et Borlut aussi, par ricochet. Celui-ci accepta la bataille bravement. Devant les réticences, les critiques niaises de la commission, il proclama son admiration. « Ces tableaux sont des chefs-d'œuvre. On s'en apercevra plus tard. C'est le sort de tout art nouveau de déconcerter d'abord, même de déplaire. Bruges possède un trésor de plus et un grand peintre dont le nom vivra dans l'avenir. » L'échevin et les conseillers protestèrent contre la leçon qu'on voulait leur donner. Ils avaient leur opinion, aussi légitime et plus juste peut-être. « Monsieur Bartholoméus est votre ami. Nous sommes libres !» observa un d'eux d'un ton colère. La séance allait tourner à la dispute. L'échevin, plus prudent et retors, rompit en déclarant que lui et ses collègues feraient rapport au conseil, et tous se retirèrent. Quelques jours après, le peintre reçut une lettre officielle lui notifiant que la ville, conformément aux conclusions de la commission, ne pouvait accepter les peintures décoratives de l'hôtel de ville que moyennant certains remaniements et transformations, qu'une note détaillée lui ferait connaître ultérieurement. C'était le coup lâche et prévu. Bartholoméus répondit instantanément qu'il ne toucherait plus à son œuvre, longuement mûrie et définitive, que la commande lui avait été faite sans condition, qu'il la tenait pour indissoluble et exigible. Le pire, c'est que le paiement n'avait pas été effectué encore. Borlut, indigné, dénonça dans un journal toute l'odieuse et ignare machination. Il menaça l'administration d'un procès de l'artiste, où il ne pouvait manquer d'obtenir gain de cause. Quant à Bartholoméus, il s'inquiétait surtout du sort de ses peintures. Volontiers, il en eût abandonné le prix, mais il tenait essentiellement à ce qu'elles demeurassent dans la salle gothique de l'hôtel de ville, liées à la destinée du monument illustre, incorporées à lui, pour ainsi dire, comme les images à un cerveau. N'était-ce pas le rêve même de Bruges qu'il avait peint? Et ce rêve ne devait-il pas, dès lors, s'éterniser dans la maison commune? Il songeait surtout à la gloire, à l'avenir. Est-ce qu'on viendrait aussi voir son œuvre dans les siècles prochains, comme on va à l'hôpital en traversant des corridors blancs et des jardins de buis contempler les Memling? Ah, cet orgueil de durer! De vaincre la mort et le néant, d'être le pain et le vin d'art, de faire communier de soi toute l'élite future. Ainsi l'ambitionnait Bartholoméus, prêtre d'un art religion. Borlut publia un jour, dans ce temps-là, un portrait émouvant de son ami, si désintéressé et si noble, et qui devrait être l'honneur et la parure, le trône et le sceptre, le phare vivant de la ville. Mais ces dithyrambes et ces menaces ne firent qu'envenimer l'affaire. Le patronage de Borlute fut moins efficace que nuisible à cause des animosités qu'il avait excitées en prenant une attitude d'opposition dans l'affaire du port de mer. On fut sur le point de faire enlever d'office les peintures. À ce moment, le collège intervint, un peu inquiet du bruit suscité et n'osant assumer la responsabilité du cas. Il conféra avec l'artiste, essaya des moyens de conciliation. De guerre lasse, on accepta de part et d'autre l'arbitrage d'une commission exclusivement composée de peintres et que chacune des deux parties en cause élirait pour moitié. On convint aussi qu'on choisirait comme président, et afin de s'assurer toute impartialité, un artiste français, célèbre, qui exposa fréquemment en Flandre. Voici ce qui arriva. Quand ces peintres se trouvèrent réunis devant les fresques de Bartholoméus, ce fut un élan unanime, un cri de surprise et d'admiration pour cette œuvre d'une unité si parfaite, dont le symbolisme était clair, en somme, et qui attestait une science, une sûreté de son art, une entente du sens des lignes et de la concordance des tons, vraiment déconcertante. On était en présence d'un maître qui faisait honneur à l'art flamand et à la ville de Bruges. Un rapport fut rédigé dans ce sens et transmis. Borlute exulta, triompha bruyamment. La campagne avait donc abouti. L'évidence s'était faite. Il accabla d'ironie ceux qui n'avaient pas vu clair, dévoila leur ignorance en même temps que leur bassesse d'âme. Borlute prenait un âcre plaisir à ses luttes. Il jouissait de l'action. Il vivait comme dans la flamme et les fumées. Ce combat pour Bartholoméus n'avait été qu'une escarmouche, victorieuse celle-ci, après l'autre, celle de la soirée du meeting, qui fut néfaste, elle, sembla une défaite contre un ennemi invisible, à travers la nuit et de la pluie. La guerre continuerait, la guerre contre le port de mer, la guerre pour l'art et l'idéal pour la beauté de la ville. Cette beauté de Bruges, encore inachevée, était son œuvre, sa fresque de pierre, qu'il avait à défendre, comme Bartholoméus la sienne, et vis-à-vis des mêmes ennemis. L'action, l'action, ivresse d'être seul et de vaincre. Peut-être qu'ici encore il triompherait, mais combien d'obstacles et d'assauts. Borlute s'en rendait compte et songeait, non sans mélancolie, que les grands hommes ne s'imposent que malgré tout le monde. Chapitre 4. Borlute s'enflammait aux fièvres héroïques de l'action. Il fut vite condamné au silence, à la vie stagnante, aux mornes méditations de la défaite. Irréfléchi et désordonné, il n'avait pas songé qu'il dépendait, en somme, de la ville et des magistrats communaux, contre lesquels il mena campagne, pour s'opposer au port de mer d'abord, et ensuite pour défendre son ami Bartholoméus. On lui fit expier cette double audace. Peu de temps après, un avis du collège l'informa que, à la suite de l'attitude d'hostilité prise par lui contre l'autorité dont il relève, il était démissionné de ses fonctions d'architecte de la ville. Le coup fut terrible pour Borlute. Peine sans appel et sans issue. Ah, ça avait été bref le plaisir enivrant de l'action. On avait vite fait de l'abattre. Il était tué maintenant. Et par la plus lâche des vengeances, on l'atteignait au côté le plus sensible de sa vie. Il aurait dû prévoir, s'abstenir. Mais est-ce qu'il pouvait laisser assassiner son rêve? Il n'était entré dans l'action que parce qu'elle se confondait cette fois avec le rêve. Plus que lui-même, c'est son rêve qui était vaincu, le rêve de la beauté de Bruges. Il en fut le gardien fidèle, l'infatigable artisan. Que de travaux en suspens! et tant d'autres à entreprendre qui, du coup, se trouvaient compromis, sacrifiés, perdus. Précisément, il venait de soumettre le plan des restaurations de l'Académie, qui eût été un digne pendant de la Grutus. Bien des façades attendaient encore qu'il eût le temps, qu'il vînt avec ses mains minutieuses, des mains de clinique et d'accouchement, les ausculter, les délivrer d'un ange sculpté, d'une gargouille, d'un visage d'enfant. Personne n'avait eu, et personne n'aurait plus, son art prudent de restaurer sans renouveler, de seulement étançonner, rejointoyer, dénuder les détails intacts, retrouver sous tout accroissement parasite l'écorce originelle des pierres. Désormais, on allait abîmer son œuvre, on nommerait en son remplacement quelques maçons. C'est à cause de cela qu'il s'affligea, et non pour la perte pécuniaire, puisqu'il possédait du bien, ni non plus pour l'avantage honorifique. Toujours il avait envisagé la vie de plus haut et ne regretta dans sa disgrâce que la ruine prochaine de son œuvre, l'immixtion inévitable du mauvais goût, d'un faux archaïsme empressé à détruire cette harmonie grise et rose qu'il avait unifiée tout au long de la ville. Cette œuvre de la beauté de Bruges, son œuvre pour laquelle il avait vécu exclusivement, lui subordonnant tout, lui sacrifiant son temps, ses pensées, ses tendresses, ses envies de départ et de fuite, quand la vie à son foyer devenait trop intolérable. Cette œuvre qu'il avait espéré harmoniser et terminer et couronner des dernières guirlandes sculptées qu'il restait à faire éclore, voici qu'on décidait de la lui reprendre. Il n'y avait rien à faire. Mais c'était désolant, comme le rapt d'une enfant, enlevé au moment où on allait la parer de sa plus belle robe. Barbe, elle, se montra très irritée de la démission d'Ioris. Elle lui fit des reproches acerbes, accusa encore une fois sa légèreté, sa cécité ordinaire. Grief nouveau et incessant contre lui. Elle prétendit même que c'était un déshonneur et qu'il l'atteignait. Elle aurait à subir des ironies et des allusions blessantes à ce sujet. Bouleversée par cet incident, elle traversa encore une fois une période de grande exaltation. Elle ne décolérait pas, relançait Ioris, provoquait des scènes à tout prix. Elle l'accablait d'invectives, de reproches interminables. Elle récapitulait en même temps toute l'histoire de Godelive, la lâche trahison. Son état de santé, parallèlement, empira. Elle eut des attaques de nerfs, tombant tout de son long, la face morte, la bouche resserrée, soudain close et déjà comme une cicatrice, tandis que les jambes ruaient, que les bras battaient l'air. Il semblait alors qu'on eût voulu la crucifier sur quelque croix horizontale et qu'elle se défendit. Des cris lugubres, des appels étranglés terminaient la syncope, emplissaient la demeure, fondaient enfin dans une débâcle de larmes et de plaintes. Elle appelait la mort, proclamait en mélopée son ennui de vivre. Tout le pire recommença. Courir soudain vers une fenêtre, l'ouvrir avec frénésie, menacer de s'y jeter. Ou sortir précipitamment, se mettre à arpenter les quais, à longer les canaux, à se regarder dans l'eau du haut des ponts, comme attirée par une image d'elle-même, guérie et si calme, et qui lui montrait ce qu'elle pourrait être, ce qu'elle allait être. Ioris devinait ses tentations de suicide, s'élançait derrière elle. Il tremblait, par peur du scandale d'abord, à cause du vieux nom de bourgeoisie flamande qu'il portait, dont l'hérédité pesait sur lui, et qui aurait pâti, comme d'une propre tache, du sang répandu sur lui. Ensuite, par peur du remords qu'il présageait lancinant et quotidien, si Barbe s'était tuée. Il avait un de ces cœurs qui vivent en arrière. Certes, il souffrit beaucoup par elle. Il savait néanmoins qu'après l'avoir perdue, il s'en retournerait pour la regretter jusqu'au plus lointain de son passé. le temps où il l'avait aimée, le temps de la bouche trop rouge. Pas une minute, il ne voulut s'arrêter à la pensée que ce serait pour lui la délivrance. Chaque fois, il l'écarta avec effroi, comme l'idée d'un crime, comme si lui-même songeait à pousser Barbe par la fenêtre ou dans l'eau. D'ailleurs, que ferait-il dorénavant si tout à coup il était libre? Il n'en serait que plus seul. C'était bon avec l'amour de Godelive, mais elle aussi l'abandonna. Si Dieu avait voulu! La petite phrase ancienne rechanta en lui, accourut des horizons de sa mémoire, plana, pleura. Où était Godelive à cette heure? Que faisait-elle? À quoi pensait-elle? Pourquoi l'avait-elle délaissée? Maintenant que la ville venait de le disgracier, il aurait pu partir avec elle, tout quitter, recommencer sa vie ailleurs. Il n'avait supporté les colères de Barbe, son foyer morne ou tumultueux, toute son existence d'angoisse et de chagrin, que par amour pour son œuvre. Parce qu'il était lié à elle, n'aurait pas pu vivre autre part, eût senti partout l'atteinte des tours, se sentait incapable de quitter Bruges. Aujourd'hui, c'est Bruges qui le quittait. Hélas, au moment où ils auraient été affranchis, libres de partir, Godelive n'était plus là. Si Dieu avait voulu! Yoris sentit lui revenir le regret de Godelive. Il alla rechercher dans la tour la petite phrase d'élégie qui, naguère, montait avec lui, le précédait dans l'escalier, redescendait à sa rencontre, toute hors d'haleine d'avoir couru sur les marches et d'être amoureuse. Heureusement qu'on ne l'avait pas démis aussi de ses fonctions de carillonneur. Non à cause d'un reste de bienveillance ou de reconnaissance pour les services rendus, mais parce que le concours public et l'élection par le peuple, plus que l'investiture par les magistrats, semblaient faire de cette charge un emploi inamovible. Boulut garda ainsi son asile. C'était fini d'y monter ainsi que dans son rêve, ainsi que dans la tour de son orgueil. Le beffroi lui fut de nouveau le départ, la fuite hors de lui-même, l'ascension, le voyage vers le passé et les souvenirs. Par les baies vitrées, il n'eut plus le courage de regarder la ville, en proie à d'autres. Il s'isola, s'absorba en des réminiscences intimes, revécut les heures de la présence de Godelive. C'est ici qu'elle s'était assise. Elle avait ri, elle avait tapoté le clavier. Là, il l'avait étreinte, heure de ciel, reposoir, dont l'odeur de chair blonde semblait encore embaumer à la même place. Oh, Godelive, elle était la seule chose claire de sa sombre vie, la clochette blanche en laquelle il l'incarna dans ce temps-là et qui dominait le noir déluge des autres cloches. De nouveau, maintenant que ses jours s'assombrissaient définitivement, seule la clochette blanche surplomba, égaya encore un peu les grandes eaux de sa tristesse. Il la connaissait bien, il savait quelle touche il faut frapper pour qu'elle tinte. Alors, c'était l'âme de Godelive qui revenait. Le regret d'elle obséda Yoris, un désir nouveau de la revoir. De la reconquérir peut-être. Il ignorait comment il s'était repris à elle, à y penser, à l'évoquer, à prononcer son nom sans savoir pourquoi. Ce doux nom de litanie, ce nom dont God, c'est-à-dire Dieu, est la racine et où on dirait que le nom de Dieu s'enjolive. Il croyait l'avoir presque oublié. La hantise recommença jusqu'à rêver d'elle la nuit. Il y a ainsi des reprises mystérieuses, un retour de sentiments, les anniversaires du cœur. Peut-être aussi un instinct l'avertissait. Si Godelive était malheureuse, mal acclimatée au béguinage, et qu'elle songeât à quitter l'ordre, alors elle allait revenir, et il n'y pensait que parce que déjà elle était en chemin. Chapitre 5. Iorice n'avait pas oublié le vœu, fait naguère par Godelive, d'aller en pèlerinage à la procession des pénitents de Fume, si Dieu écartait son épouvante d'une maternité possible. Puisqu'elle avait été exaucée, il est presque certain qu'elle s'y rendrait. Iorice n'y tint plus, voulut partir, la retrouver, même lointaine, et si morte pour lui sous le voile et la robe du béguinage. N'importe, la voir, être vue. Tout le passé pouvait renaître, leurs yeux se reprendre, leur vie se ressaisir et s'entrêler de nouveau en un seul vol qui ne finirait plus. C'est le dernier dimanche de juillet que le cortège religieux fait sa sortie annuelle, et cela depuis l'origine, depuis cette année 1650, où les RRPP capucins l'instituèrent. Dans leur église, un soldat originaire de Lorraine, nommé Manaert, qui tenait garnison à Fume, vola une hostie consacrée, de complicité avec un de ses camarades. Il brûla ensuite les saintes espèces dans l'espoir de pouvoir, au moyen de leurs cendres, ouvrir toutes les sortes de serrures et se rendre invulnérable à la guerre. Mais il ne put se prémunir contre les coups de Dieu. Il fut arrêté et brûlé vif avec son complice, en punition de leur sacrilège, qui se compliquait de manœuvres mystérieuses où les juges reconnurent l'œuvre de satanisme et de magie. En expiation, les capucins fondèrent cette procession de la pénitence et chargèrent de son organisation la confrérie de la sodalité, qui, depuis cette date, n'a jamais manqué de la faire sortir chaque année. Rien n'a changé à travers les âges. C'est le même cérémonial, la même composition de scènes et de groupes, les mêmes trous de cagoule où s'enchassent les yeux des générations successives, le même texte, tout un poème versifié en flamand rauque et dur qui se déclame par les rues et occupe les bouches, de siècle en siècle. Borlut n'avait jamais vu l'extraordinaire procession où la vieille Flandre s'atteste tout intacte et se continue. Il arriva la veille dans la petite ville morte, tout à l'ouest. Il y venait surtout pour Godelive, comme s'il allait jouer sa vie, risquer une dernière fois son avenir dans un hasard. Pourtant, le décor l'accapara, le détourna un moment de lui-même. Tout s'unifiait en une harmonie de mélancolie. L'hôtel même où il était descendu portait cette enseigne « À la noble rose ». Enseigne royale et nostalgique d'une hôtellerie d'autrefois. Dans sa fenêtre ouverte s'encadrait un paysage séculaire. C'était le vaisseau, sans clocher, mais arc-bouté et surgi haut, de l'église de Sainte-Walburge. Et le beffroi, octogone et qui s'effile en campanile. Or, entre les deux monuments, évoluait une bande d'innombrables corbeaux, agglomérés, rapprochés l'un de l'autre, presque contigus. Ils ne cessaient pas d'aller du beffroi à l'église et de l'église au beffroi, ne se posant qu'une minute, repartant aussitôt. Leur masse oscillait comme un feuillage au vent. C'était un flux et un reflux incessants, une vague noire dans l'or du soir, qui sans fin se reformait, roulait sa volute, se sculptait en ténèbres. Il y avait, dans cette allée et venue, quelque chose d'inexorable et de fatidique. On aurait dit un vol de pensées indignes environnant l'église et la tour, qui voulait y entrer et ne serait jamais accueilli. Iorice rêva ça, se vit lui-même en cette allégorie, et ce qu'il aurait dû être. Lui, dans son beffroi de Bruges, avait ouvert à l'essaim noir, aux mauvais désirs, aux voluptés. Tous ces corbeaux circonvenant les tours d'ici, il les portait en lui, des ferlements d'ailes, remords criards, va-et-vient d'éternelle incertitude. Quelle leçon lui tombait, à cette heure, de l'église et du beffroi où les corbeaux ne croissaient qu'au dehors. Ioris sortit, erra par la ville, arriva à Sainte-Walburge, par une petite esplanade, une sorte de quinconce, plantée de quelques vieux arbres, silencieuse et mélancolique, comme un enclos de béguines. aucun bruit n'arrivait. Le site était gris, d'une humidité d'automne éternelle, comme si, là, c'était toujours novembre. Les feuilles, aux branches, semblaient ne tenir qu'à peine, être prêtes à partir, toutes pâles à cause de l'ombre, sur elles, de la haute église. Celle-ci carrait sa masse fruste. Il y avait des portes bouchées, des passages aveugles, des maçonneries scellées de cadenas barbares, qu'on n'avait plus ouvert depuis des siècles et qui menaient vers on ne sait quelle crypte ou quelles oubliettes. Des vitraux verdâtres occupaient les hautes fenêtres en ogive. On aurait dit des pièces d'eau que plus rien ne fait se plisser, frissonner. Une odeur de moisissure affadissait l'air. De grandes taches roses et vertes, un tatouage vénéneux, toute une polychromie faite de déchéance et de pluie couvrait les murs extérieurs de l'église. Peut-être qu'un cimetière, jadis, avait existé dans cette herbe. Alors c'était les marbrures mêmes de la décomposition qui s'éternisaient là, la chimie de la mort qui avait passé dans les pierres. L'ennui de vivre planait. Borlute pénétra dans l'église, déjà presque noyée de ténèbres. La même odeur de moisie s'invétérait. Des madones au visage noir s'effaçaient sur les autels. On aurait dit qu'elles avaient vécu vraiment et furent embaumées en des temps très anciens. De là, cette senteur de momie au long des nefs. Quelques cierges brûlaient, faisaient saigner l'ombre, ci et là, dans les chapelles, dont les barrières fermaient l'entrée et où s'encombraient les oripeaux, statues, cartels et accessoires de la procession. Soudain, dans un des bas-côtés, Borlute aperçut les croix qui devaient servir aux pénitents du lendemain. Il y en avait des centaines, appuyées au mur, accumulées, groupées selon leurs dimensions et leur poids. Les unes étaient en bois rugueux, comme taillées à la hache, et peintes d'ocre grossier. Les autres, plus petites, noires et lisses, les plus grandes, avaient la hauteur et la pesanteur d'un arbre. Borlute essaya vainement de les soulever. Pourtant, il viendrait demain, de tous les endroits de la Flandre, des pénitents qui les jugeraient moins lourdes que leurs fautes et seraient capables de les porter à travers les rues, pieds nus et en sueur, sous la cagoule. Ainsi, chacun se choisirait une croix à la mesure de son péché. Yoris songea à Godelive. Il la voyait déjà s'exténuant sous un fardeau, voulu trop lourd, un fardeau double, puisqu'elle entendrait porter leur péché, le péché d'amour qui appartient à deux. Laquelle de ces croix allait-elle choisir? Yoris tremblait, s'effarait de toutes ces croix entassées dans l'ombre, debout ou couchées. C'était pour elle la veillée avant la procession dramatique, l'étape du soir. On aurait dit qu'un cimetière avait marché et abouti là. Cela semblait toutes les croix inégales d'un cimetière, ayant quitté les morts, qui sont les vivants d'hier, pour appartenir un peu aux vivants, qui sont les morts de demain. Ce soir seulement, elles étaient vacantes de la foule et se reposaient. Envahie par trop d'afflux funèbres, Borlute s'enfuit, chercha du bruit, des passants, d'autres images. Il arriva sur la place, historié de quelques fines architectures, presque un coin de Bruges, réduit et plus humble, pittoresque néanmoins, avec cette façade d'une ancienne châtellenie et l'hôtel de ville, au péristyle ajouré, aux sveltes colonnades. En face, le vieux clocher d'une église, plus émouvant d'être inachevé. Oh, beauté des tours interrompues, qui se continuent dans du rêve et que chacun termine en soi. Malheureusement, une foire était installée au centre, des baraques, des toiles peintes, des manèges pleins de verroteries où meuglent des orgues et des cuivres. Absurde anomalie consentie par l'autorité de mêler cette kermesse à la procession et les farces des pitres au drame sacré de la passion. Ne faudrait-il pas que les pénitents apparussent dans du vide et dans du silence? Borlut s'offensa, ici encore, du mauvais goût des modernes qui ne peuvent rien harmoniser. Il se promit bien de voir défiler le cortège ailleurs, dans quelques rues lointaines et muettes, où un peu d'herbe entre les pavés serait clémente aux pieds nus de Godelive. Le dimanche, à 4 heures, la procession s'ébranla. Les cloches sonnèrent à lente volée au clocher des paroisses. Une rumeur monta de la ville, comme le bruit d'une écluse ouverte quelque part. Borlut attendait à un carrefour écarté. Il n'y avait là qu'un peu de peuple, espacé et recueilli. Quant à lui, un grand émoi l'agitait, une angoisse nerveuse qui l'empêchait de tenir en place, et par instants contractait, immobilisait son cœur, comme une bête mystérieuse captive en lui. Ainsi, la minute venait, qui devait venir. Tout arrive si vite, sauf le bonheur. Il allait revoir Godelive, mais si changée sans doute, si différente sous la cornette cachant ses cheveux, et déjà comme une autre. En supposant qu'il pût la découvrir, en effet, et qu'elle s'aperçût de sa présence, comment la reprendre, l'arracher à la volupté de la pénitence, la désenlacer de la croix qui ouvre aussi des bras. Ioris n'espérait guère. Songeait qu'il n'était venu ici, sans doute, que pour prendre conscience de l'irrémédiable. Un cri d'or déchira l'air. Il y eut de petits remous dans la foule. La procession s'avança. Des héros, en costume du Moyen-Âge, pourpoint et chaperon, soufflaient dans d'aigres trompettes. Mais tout aussitôt parurent des anges, visions lénifiantes, robes roses et bleues, ailes diaprées. Puis des fillettes, aux coiffures naïves, portant des cartels, des écriteaux, des attributs. Les scènes de l'Ancien Testament se succédèrent. L'offrande d'Abraham, Moïse dans le désert, les 8 prophètes, David et ses 3 châtiments, la guerre, la peste, la famine, suivie de son repentir. Les pénitents qui avaient assumé ces rôles s'en acquittaient avec conscience et ardeur. Ce n'étaient point des salariés, mais des confrères de la sodalité, des hommes de foi et de zèle, qui, pour le pardon de leurs péchés et l'exaltation de l'Église, acceptaient d'être les comparants de la procession séculaire. Les costumes étaient barbares et bariolés. Des barbes postiches hérissaient les faces déjà enluminées et farouches à cause d'un grossier fard. La grande originalité de cette procession de fume, c'est que les personnages ne se contentent pas de défiler, ils parlent. Il ne s'agit plus ici d'un cortège seulement costumé, de tableau vivant, d'un mystère silencieux. C'est l'authentique drame divin qui se joue, moins théâtral que véridique, toute une pantomime réaliste, une déclamation violente et sincère. Les prophètes passent et ils annoncent réellement l'avenir. Les anges ont de vraies voix insexuelles qui appellent ou qui chantent, si résolues, ondulantes comme des banderoles. L'illusion était complète. Quand les bergers et les mages s'avancèrent, les uns et les autres cheminaient vraiment vers la crèche. Convaincus, ils conversaient à voix haute, s'interpellaient, engageaient des colloques, discutaient, selon le texte immémorial, rimé jadis par quelques chanoines, et qu'ils récitaient de mémoire. L'illusion était complète. Quand les bergers et les mages s'avancèrent, les uns et les autres cheminaient vraiment vers la crèche. Convaincus, ils conversaient à voix haute, s'interpellaient, engageaient des colloques, discutaient, selon le texte immémorial, rimé jadis par quelques chanoines, et qu'ils récitaient de mémoire. L'air s'emplit de leurs rumeurs et de leurs clameurs, toute cette mélopée rauque que sont les alexandrins flamands, plus gutturaux encore de passer par des voies populaires. C'est dans la scène, Jésus au milieu des docteurs, que la déclamation devint sonore et vraisemblable. Les 12 docteurs, vieillards à barbe grise, à mine sourcilleuse, s'exaltaient, gesticulaient et criaient. Le caractère de chacun se précisait, se différenciait. Le troisième docteur apparut inquiet, conciliant aussi. Il dit avec emphase « L'oraison de Judas ne peut être exaucée avant que soit venu celui qui doit venir. » Le dixième docteur s'avéra orgueilleux. « Ce que je ne vois pas, qui le verra jamais ? Qui, en dehors de moi, cherche ?» D'autres avis montèrent dans l'air. Les vers se déroulèrent, se heurtèrent, les voix se mêlèrent. Ce fut le bruit d'un débat pathétique qui va pour un peu se changer en dispute. Tous péroraient avec des gestes saccadés, se passionnaient. Tout à coup, Jésus parla. Un doux enfant, vêtu d'une tunique de lin et dont les cheveux étaient blonds comme les blés de Flandre. Dieu vous donne à entendre et vous demeurez sourd. Qu'est-ce donc que David et Isaïe enseignent ? La louange de Dieu guérit les cœurs qui saignent. Et longtemps ruissela la fraîche voix. Les docteurs répliquaient, niaient, rétorquaient des arguments, proclamaient leur science infuse et infaillible. Jésus continua. Il était déjà passé qu'on entendait encore la voix claire côtoyer les basses profondes des docteurs, s'y mêler en affluent débile. Par intervalle, entre les groupes de personnages, apparurent, portés à bras ou sur des chars, des stations en bois sculptées et peints d'un art inculte, figurant l'étable ou quelque épisode de la vie de Jésus-Christ. Œuvre barbare. Elles étaient barbouillées de couleurs crues où le rouge semblait du sang. On aurait dit que la foule elle-même façonna ces images, d'une foi naïve mais miraculeuse, comme si elles avaient été taillées dans l'arbre de la croix. Ioris écouta, regarda la procession étrange, qui créait un si extraordinaire recul, abolissait toute l'impression du temps présent et de son inordité moderne, le faisait contemporain des grands siècles de foi. Il s'émut, ne s'appartint plus, se donna aux voix et aux gestes. Surtout quand apparut le groupe de l'entrée de Jésus à Jérusalem, toute une théorie triomphale et diaphane, les filles de Bethphagée en des voiles de mousseline, caressant l'air de leurs palmes, psalmodiant des hosanna. Les rameaux pleuvaient dans ce printemps immatériel. Tout était blanc et vert. On aurait dit qu'un jardin s'avançait. Les apôtres marchaient sur deux rangs, remerciant la foule à voix retentissante, proclamant le Christ. Celui-ci, parmi les enfants et les vierges, vint monter sur l'ânesse légendaire. Pure figure auréolée. Où l'avait-on trouvé, ce comparant visionnaire qui, pour lui-même, était sans doute Jésus comme il l'était pour tous. Visage tel qu'un ostensoir. Était-ce un homme du peuple qui avait cette fine beauté, pensive et émaciée? On aurait dit qu'une lumière brûlait au-dedans de lui, comme dans les veilleuses. Il tenait deux doigts levés, dans l'allure de bénir, et durant tout le cortège, qui dura des heures, il ne modifia pas son geste. Il avait fait ce vœu, disait, autour de Ioris, le peuple qui le connaissait bien. C'était un homme pieux de la ville et qui, à cause de sa sainteté, portait toujours sur la face cette clarté surnaturelle. Les autres étapes de la Passion, la scène, le jardin des olives, étaient représentées par les stations de bois sculptées qui s'espacèrent, accompagnées sans cesse de pénitents, d'anges, de clercs, qui tous déclamaient, vaticinaient, soufflaient dans des trompes, avertissaient des péripéties prochaines. Des femmes passèrent, les bras nus, la gorge visible comme des courtisanes, tenant chacune dans les mains des bijoux énormes. Une inscription, offerte par un pénitent, disait « Femme portant les bijoux de Marie-Madeleine ». Ioris s'impressionna de la troublante idée, une idée de complainte et d'image populaire. D'ailleurs, tous les attributs figurant là évoquaient ainsi, résumaient puissamment constituait un raccourci ou une allégorie, attestait ce sens flamand de comprendre la vie des choses. Le portement de la croix, qui était la scène essentielle de la procession, se prépara aussi par des emblèmes annonciateurs. Des anges et des pénitents se succédèrent, portant la lanterne, l'aiguière de Pilate, le linge de Véronique, une éponge, une clepsydre, le voile du temple déchiré, un marteau, trois clous, une couronne d'épines. C'était, par avance, tout l'appareil de la Passion, les instruments du supplice, les signes figuratifs. Plus tragique d'apparaître nu et comme s'il signifiait seulement l'arabesque d'une destinée, ce qui la fixe et en subsiste. Bientôt, un violent tumulte éclata. Les trompes sonnèrent plus fort, mêlées à des cris d'impatience et de colère. Des soldats romains, aux manteaux écarlates, caracolaient. Il y eut un éclair, qui était la lance de Longin. Des juifs suivaient, avec des piques et d'autres armes. Puis les bourreaux, avec des échelles, des torches. Le cortège tumultueux s'encombra. On entendit des apostrophes furibondes. La foule entière prit la parole. Le texte s'encolérait, précipitait les colloques, les onomatopées sauvages. Ce fut un charivari de voix et d'instruments. Le Christ passait, ployait sous le poids de sa lourde croix. Il tomba. Les vociférations s'accrurent. Une fureur qu'on eût dite réelle gagna les acteurs. Quelques-uns se précipitèrent, bousculèrent le Christ, l'obligèrent à reprendre la croix, aidés par Simon de Cyrène, à continuer la route vers le calvaire. L'homme-Dieu blêmi sua une authentique sueur d'agonie. Celui qui figurait ainsi le Christ portant la croix n'était pas le même que celui qui avait assumé le rôle du Christ entrant à Jérusalem, mais il lui ressemblait, un peu plus maigre et moins jeune. C'était une raison supplémentaire de s'attendrir en voyant ce Christ, avec, au fond, le même visage, mais si vite changé et tant vieilli. Il faiblissait, inclinait à la troisième chute. Le vacarme recommença et ne connut plus de bornes. Une rage folle emporta les soldats romains et les juifs. Les voix crièrent toute l'injure. En même temps, les instruments s'affolèrent. On eût dit que la tempête elle-même soufflait dans les trompes. Des crécelles de bois s'en mêlèrent, grincèrent comme si elles écrasaient des ossements. Les cornets à bouquins aboyèrent. Des porte-voix sonnèrent des appels lugubres. Hors des trompettes, il coula du vinaigre pour imbiber l'éponge. À ce moment, les bourreaux intervinrent, rudoyèrent Jésus. Au bord des trottoirs, les femmes du peuple pleuraient. Ioris aussi était ému par la violence crue, la sincérité du spectacle. Il en avait presque oublié Godelive, et qu'il n'était venu là en pèlerinage que pour la revoir, fût-ce une minute, dans cette procession, où les pénitents, à la suite du Christ, portent aussi des croix. Voici qu'ils apparurent, fantômes en deuil et humiliés, spectres aux seuls yeux lumineux. C'était tragique, un long convoi d'ombre. Cette fois, tout le silence avait afflué, plus un bruit ni un cri. Un silence plus sinistre d'être noir. Il y a le silence blanc des ouvroirs de Béguine, il est doux. Ici, un silence noir qui épouvante, glisse comme de l'eau, est plein d'embûches autant que la nuit. D'abord, on ne distinguait qu'un enchevêtrement de croix, tous les bras levés des croix d'un cimetière. Chacune avait son mort. Des centaines de pénitents et de pénitentes marchaient, tous pieds nus sur le dur pavé, n'ayant que ce rappel d'humanité sous les robes de bure qui les faisaient anonymes et semblables. Pourtant, les yeux brillaient, brûlaient dans les trous de la cagoule. C'étaient les feux follets de ce marais de péché. Seuls quelques visages s'offraient à découvert, ceux des pénitents appartenant à des ordres religieux, parce qu'il était impossible de revêtir la bure et la cagoule par-dessus leur froc de moine ou leur cornette de religieuse, qu'il ne fallait jamais quitter. D'ailleurs, leur pénitence, en étant publique, ne serait que plus édifiante et expiatoire. Ioris chercha, interrogea, fouilla ardemment cette masse confuse, presque uniforme à cause du deuil et des croix. Ses yeux volèrent, voletèrent, butinèrent tous les visages qui se montraient nus. Il n'avait pas assez de ses yeux. Il lui sembla alors que ses yeux s'engendraient, se multipliaient, devenaient les yeux innombrables d'une foule pour tout voir à la fois et trouver Godelive. Est-ce qu'aucun fluide n'existait plus entre eux qui les ferait se reconnaître, se sentir à distance, s'attirer? Tout à coup, Ioris frissonna. Oui, Godelive était là, mais combien changée, toute pâle et plus elle-même. Elle marchait au dernier rang, un peu en arrière, à cause d'un pénitent qui avait nécessité un espace vide autour de son pèlerinage ostentatoire, promenant une énorme croix, sous laquelle il défaillait et qu'il traînait comme les ailes d'un moulin. Godelive le suivait, aussi exténuée que lui, sous une croix moindre, mais qu'elle avait choisie trop lourde. N'était-ce pas la peine du péché double, le poids qu'aurait pesé sa faute si elle avait fructifié jusqu'au bout? Ioris, en la revoyant, songea au vœu, au motif du vœu. Godelive allait, pieds nus aussi, résolue, quoique ployante, comme si elle voulait marcher ainsi jusqu'à son tombeau dont elle portait déjà la croix. Vraiment, comme elle était changée! Est-ce le costume de Béguine, cette coiffe stricte en serrant ses cheveux qu'on ne voyait plus? Ioris eut des larmes aux yeux en songeant à la chevelure de miel. Est-ce la mélancolie d'une vie où elle s'était jetée au lendemain d'un désastre et sans vocation peut-être? Ioris espéra, s'avança, tendit la tête. Encore un peu, il tendait les bras, risquait tout, forçait les rangs. Entrer la reprendre dans ce cortège de fantômes, l'arracher de force à la croix où elle se crucifiait elle-même. Godelive l'avait vue. Instantanément, elle se détourna. On aurait dit qu'elle avait aperçu le démon. Son visage chavira, ses yeux furent clos. Elle resta les paupières retombées, l'air d'une morte. Déjà, elle était passée. Sa face pâle avait étincelé une minute, comme la lune sur la mer. Puis une vague humaine roula, l'effaça. D'autres suivirent. Ioris continuait à la chercher par-delà les remous. Il garda un espoir. Elle l'avait reconnue. Maintenant, elle réfléchissait, se remémorait peut-être, subissait la tentation revenue, sentait dans sa chair les anciennes étreintes, les baisers couvants, l'amour inoubliable. Pouvait recommencer. Il fuirait avec elle, n'importe où, au bout du monde. Il l'appela tout haut. « Godelive ! Godelive !» Comme s'il l'exorcisait de la possession de Dieu, l'envoûtait de son propre amour et que son nom fût une parole sacramentelle, une formule de toute puissante magie. Frémissant, il s'élança pour la retrouver une fois encore à un autre point de la ville, car la procession suivait un long itinéraire, prolongeait durant 2 heures ce drame marché et mimé, déclamant le même texte, réitérant les mêmes scènes. Il rattrapa le cortège. Tout récidiva, les prophètes, Abraham, l'idylle de la crèche, les stations coloriées, à qui les secousses des porteurs donnaient un air de vivre, la dispute des docteurs, l'entrée à Jérusalem, le portement de la croix, vision confuse, cauchemar de crise et de fumée. Ioris ne distingua plus rien. Il attendait Godelive. Elle parut, plus lasse et plus pâle, toujours les yeux clos, ayant peur de le revoir, ne voulant plus le revoir. Maintenant, elle tenait sa croix droite devant elle et contre elle. Elle s'en était barricadée tout le corps. Au même instant, un ange qui précédait la bannière de la sodalité cria, d'une voix de jugement dernier, une longue mélopée. « Homme, ne restez pas obstiné dans la faute. Car hélas, le temps fuit, le temps que vous vivez. Homme, c'en est assez, priez et vous sauvez. C'était comme une annonciation d'au-delà de la vie, un chant versé du bord de l'éternité, l'avertissement de la mort en chemin. Yoris l'entendit, sentit son misérable amour se faner en lui, mourir en lui. À ce moment, un spectacle de paradis éclata, qui lui fit honte. C'était la procession religieuse dont la procession des pénitents est suivie, et qu'il n'avait pas vue la première fois. Des mousselines blanches frissonnèrent, féeries d'aube après l'orage et les cagoules nocturnes. Vierges, congréganistes, enfants de chœur en robe rouge, lévites, clergés aux dalmatiques d'or qui flambaient comme des vitraux. L'air charria une neige de roses, des guirlandes de chants où il y avait le solfège des soprani, le plein chant des diacres déchiffré dans les antiphonaires. Et le dais parut, parmi des porte-flambeaux, des encenseurs qui agitaient leurs urnes d'argent en un cliquetis de chaînettes. Tous les assistants tombèrent à genoux, unis, réconciliés par les rubans bleus de l'encens. Yoris ne s'appartenait plus. Il s'agenouilla aussi, pria, adora, se perdit dans l'acquiescement de la foule, connut une minute toute l'antique foi de la Flandre, oublia Godelive. Le soir seulement, quand il réintégra sa chambre d'hôtel, s'apprêtant au départ, il se sentit seul enfin et triste jusqu'à la mort. Les souvenirs du cortège des pénitents lui revinrent. Il n'aurait pas même, lui, le linge de Véronique. Sa destinée était irrémédiable. Il n'avait pas atteint Godelive. Aucune consolation ne lui viendrait plus. Sa carrière était brisée. Il allait s'en retourner vers son foyer morne. Il vivrait toujours ainsi, entre le regret de Godelive et l'effroi de Barbe. À ce moment, dans le cadre de la fenêtre ouverte, il revit les innombrables corbeaux volant perpétuellement de l'église au beffroi et du beffroi à l'église, essaims ballottés, flux et reflux d'ailes, vagues noires qui se roulent sur elles-mêmes, virent dans l'air et toujours recommencent. N'était-ce pas l'image de son avenir? Un va-et-vient de pensées noires entre deux bonheurs où il n'entrerait plus.